Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission hebdomadaire tous les mardis à 12h30, Histoire de France et d'ailleurs avec René-Joseph Irmana. Aujourd'hui, il va nous parler de Lady Di, princesse des cœurs ou manipulatrice. La question est posée et pour nous en parler, on retrouve tout de suite René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, Lady Diana est morte le 31 août, dans la nuit du 30 au 31 août 1997. Donc, elle avait 36 ans. Donc, c'était il y a 23 ans. Hein. Et donc, ça nous rappelle c'est déjà ancien, ça paraît très contemporain, mais ce fut un événement planétaire, inconcevable, qu'il eût cru, mais quasiment le monde entier a été secoué par cette mort, alors que, on le sait, elle était divorcée du prince Charles, elle était ex-princesse de Galles, et donc Charles, héritier de la couronne britannique. Ce fut un événement, encore une fois, incroyable, qu'il eût cru, une popularité fabuleuse. Et qui était-elle? Parce que, avant cela, ça mettait un terme, cet accident, c'était une mort accidentelle à Paris, la Mercedes qui conduisait Charles, et qui conduisait, que dis-je, l'amant du moment de Diana, Dodi Al-Fayed, Diana, et avec un garde du corps, s'encastrait dans un pilier du tunnel de l'Alma, du pont de l'Alma à Paris, alors qu'elle roulait à une vitesse folle, 150 km/h, pour échapper aux meutes de paparazzi. Voilà. Donc, on fait un focus, on reviendra sur la personnalité de Lady Diana, c'est l'objet de notre question. Personnalité complexe, voilà, plus qu'il n'y paraissait à l'époque. Donc c'est un focus, on va voir le film The Queen en extrait, en illustration, donc qui évoque justement cet épisode. Le film est consacré à la reine Elisabeth, The Queen, mais de Stefan Frears, mais l'entrée en matière, si vous voulez, évoque justement cette mort, lorsqu'on apprend la mort de Diana à la reine, qui se trouve à Balmoral. Donc justement, on fait un focus. Elisabeth II et le prince Philippe, son épouse, se trouvent dans leur résidence de Balmoral en Écosse, dans la nuit du 30 au 31 août 1997. Appel téléphonique. La reine est réveillée pendant la nuit à 2h du matin pour l'informer. C'est un appel de l'ambassadeur britannique à Paris qui informe que la princesse Diana, donc ex-belle-fille de la reine, puisqu'il y a eu le divorce en 1996, a eu un accident grave en voiture Mercedes sous le tunnel de l'Alma, au pont de l'Alma, donc tunnel. Et donc, grave accident, deuxième appel, le premier vers 2h, du matin, le deuxième appel, 3h30, pour informer que Diana est morte. Elle était transportée à la Salpêtrière et on n'a pu que constater le décès. La réanimation est possible. Et donc, autre personne morte dans l'accident, son amant, Dodi Al-Fayed, qui est le fils d'un richissime milliardaire arabe, Mohamed Al-Fayed, qui est propriétaire du magasin Harrods, un magasin à Rhodes de Londres, et également de l'hôtel Ritz à Paris, où séjournait le couple. Le chauffeur, Henri Paul, pourtant expérimenté, est mort aussi dans l'accident. Il a perdu le contrôle du véhicule. Seul survivant, le garde du corps, Trevor Rees-Jones. En fait, c'est un garde du corps qui était placé auprès de la princesse par, justement, la famille Al-Fayed. Parce que la princesse, en fait, refusait. Elle avait toujours ce titre de courtoisie, princesse de Galles, mais elle n'était plus Altesse royale. Mais on y reviendra, suivant les conditions du divorce. Et elle était toujours mère des deux enfants à l'époque. William, héritier du trône, et Harry. Donc, garde du corps n'était pas un garde du corps officiel des services secrets britanniques, bien quand le gouvernement lui proposa, mais elle avait refusé, hein, parce qu'elle pensait, un peu de paranoïa aussi, que, eh bien, ça serait de l'espionnage, voilà. Et donc, c'était, à partir de cet événement, c'est une vraie folie médiatique et populaire qui s'empare, enfin, bien sûr, du Royaume-Uni, mais de la France, du monde entier. Des millions de gens sont suspendus à l'événement. Et ça va durer à peu près un mois. On se souvient, c'était une vraie folie collective, si je puis dire. Et puis on peut rappeler un sondage, il y a quelques années, je me souviens de l'avoir entendu, je ne sais pas, il y a les années 80, 90, je ne sais plus. Eh bien, un sondage par un institut anglais, eh bien, les Britanniques, une grosse majorité, je n'ai plus les chiffres, mettons 80%, considéraient que la mort de Diana était l'événement le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors ça donne une idée aussi de la folie de ce qu'est un peuple, hein, ce qu'est le public. Et ça illustre aussi la phrase de Churchill. Vous savez, Churchill déclarait « La démocratie est le moins pire des systèmes ». Mais il déclarait aussi « Il suffit de converser un quart d'heure avec un citoyen moyen, pas un illettré, pour être dégoûté de la démocratie. » En substance, le peuple est un con. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Le peuple n'est pas... on voit bien, c'est des mouvements de foule. Il est souvent infantile. Donc, dès l'événement, déjà, on l'a dit, les médias se déchaînent, à commencer par la CNN, la télé américaine. Déjà, il y a ces chaînes d'information en continu qui passent l'événement en boucle. Et partout, bien sûr, en France, il y a des éditions spéciales, voilà, consacrées à l'événement, qui relate donc la fin à 36 ans de la vie de cette jeune femme, une vie agitée, faut bien le dire, agitée, mais aussi qui a ses richesses, sa flamboyance, et était belle, et était élégante, et puis elle s'occupait aussi, même si c'était pour l'image, peu importe, on n'a pas à douter de sa sincérité d'œuvre, de charité, mais enfin, charité est un petit peu évacuée aujourd'hui, mais c'était des œuvres de bienfaisance, des œuvres humanitaires. Par exemple, pour le sida, on se souvient de cette image de Diana qui tenait la main d'un malade du sida, alors qu'à l'époque, il y avait cette obsession, cette folie aussi, que le sida était très contagieux, hein, dans les années 80. Donc, c'était une image fulgurante, parce qu'elle s'affichait tenant la main d'un malade du sida, voilà. Et puis, cette croisade contre les mines antipersonnelles, elle avait rencontré Mère Teresa, ça avait donné, c'était une belle image aussi, mais il y avait ce souci, diverses associations qu'elle parrainait, je sais pas, aussi bien les sourds que, enfin, toutes sortes de... C'était vraiment... Elle avait voulu, disait-elle, mais je veux être la princesse des cœurs, voilà. Donc on revient sur le, on y reviendra après sur cette personnalité, mais agitée aussi avec beaucoup d'amants, etc. Donc sur les circonstances de l'accident, là aussi on a parlé dans nos précédentes émissions de Kennedy, la mort de Kennedy, on a parlé de la mort moins connue dans notre dernière émission de Louis II de Bavière avec ses mystères sur les morts. Et puis Kennedy, on avait parlé de Marilyn Monroe à propos de Kennedy, hein, en marge. Là aussi c'est une mort qui est considérée comme mystérieuse, mais beaucoup de questions sont posées sur cet accident. Alors, notamment, en fait, il y a eu des enquêtes très poussées. Alors la question peut-être qui se pose, lorsque le couple quitte l'hôtel Ritz de Di Alfayette, Diana, leur chauffeur, donc ils sortent par une porte dérobée parce qu'il y a les photographes guettent devant l'entrée, ils prennent un itinéraire bis inconnu, donc déjà ça limite, puisqu'on évoque une hypothèse d'attentat. Pourquoi attentat? Parce que ça paraît quand même assez saugrenu. On évoquait les tenants de cette thèse, un mariage avec ce milliardaire arabe, hein, et que certains disent qu'elle était enceinte, donc, et que c'eût été un scandale que la mère du futur roi d'Angleterre est un enfant avec un arabe, quoi, un musulman. Je ne sais pas s'il était musulman, mais arabe, tout simplement. Et c'eût été une hypothèse, mais on ne voit pas quand même le mobile à notre époque, quoi. C'est quand même contemporain. Voilà. Et donc, c'était cette... Alors, la question qui se pose, techniquement, justement, qui pose problème, c'est cette Mercedes S280, en réalité, qui met d'une course folle à 150 km/h. Sous le tunnel de l'Alma, et c'était l'accident inévitable. Or, Monsieur Paul, le conducteur, le chauffeur, était un homme d'expérience. Alors, on a dit qu'il était ivre ou drogué, et la Mercedes, en outre, était pourrie. Alors, ça paraît assez étonnant, hein. Elle n'appartenait pas au parc du Ritz. C'était une véritable épave, hein, qui avait été accidentée plusieurs fois, volée, retrouvée en banlieue. Elle avait eu un destin très chaotique, avec des réparations lourdes. Elle était en très mauvais état. Et on s'étonne que Henri Paul, le chauffeur, encore une fois, ait loué. C'est lui qui avait loué cette voiture dans une société privée, la société Étoile Limousine. Alors, n'a-t-il pas constaté l'état des lieux du véhicule ? C'est là le questionnement, hein, voilà. Et en outre, des tests ont été faits avec des pilotes, hein, je pense de Formule 1, hein, qui ont conclu que à cette vitesse-là, l'accident était inévitable. Et en outre, avec une voiture pourrie, il semblait par ailleurs qu'à plus de 60 km/h, il y avait un risque d'accident. C'est surprenant, quoi, étonnant. On aurait pu imaginer que c'était une voiture au top, hein, qui, à disposition d'une princesse et de l'héritier du milliardaire. Hein. Voilà. Eh bien non, c'était une épave. Voilà. Donc, en outre, je l'ai dit, c'était cet itinéraire imprévu. Mais tout de suite, hein, ils ont été repérés, hein, par les meutes de photographes qui les ont poursuivis. Voilà. Ils avaient prévu probablement cette hypothèse d'une sortie de secours. Hein. Et donc, pour chasser... Et puis, pourquoi aller si vite ? Enfin, je veux dire, c'était pas des tueurs, alors, trouve, ça, c'était pas l'attentat du petit Clamart. Donc, pourquoi cette vitesse folle ? Alors, je répète, cette idée de Monsieur Paul, ivre, voire drogué, a été contesté, notamment par sa famille. Bon, alors en outre, on peut se demander pourquoi le couple quittait l'hôtel entre 2h et 3h du matin. Voilà, je sais pas, il devait pas aller en boîte comme tout un chacun. Je pense que les sorties sont prévues. Hein. Donc c'est la question, pourquoi cette sortie ? Où allait-il ? On l'ignore. Et puis alors, encore une fois, pourquoi cette course insensée ? Et la famille de Henri Paul, lors de ses obsèques, a solennellement réfuté cette thèse de l'ivresse. Ils ont fait des discours, si on veut, sa famille, pour, encore une fois, réfuter formellement, énergiquement, cette thèse de l'ivresse, etc., hein, au moment des obsèques, hein, de leurs parents. Voilà. Donc, ces questions restent, malgré tout, hein, sans vouloir faire de complotisme. Et donc, par ailleurs, eh bien, il faut savoir, toutefois, que Mohamed Al-Fayed, donc le père, le milliardaire américain, a toujours été convaincu, mordicus, de l'attentat, et il estimait que c'était un attentat de BM16, c'est-à-dire des services secrets britanniques, hein. James Bond, hein, si on peut dire, les James Bond dans la réalité, l'intelligence service, il était convaincu. Alors pourquoi ? On ne le sait, je l'ai dit, ça paraît léger, ce motif d'honneur, enfin, pas la famille royale ou le gouvernement anglais, bon... C'était pas quand même, même si elle épousait et qu'elle a un enfant avec un enfant arabe, elle n'était plus, c'était pas un enfant adultérin, ils étaient divorcés avec Charles. Alors, par contre, peut-être, le mobile, c'est qu'elle était un électron libre. on va y revenir, depuis, pendant le mariage, dès après la naissance du deuxième fils, Harry, en 84, là, il y a eu un... Ça, on a parlé de la guerre des Galles, hein, comme on avait parlé de la guerre des Roses. C'était un déchaînement, un déballement. Elle était dangereuse, un peu. Enfin, elle ébranlait le socle d'une monarchie millénaire, malgré tout. C'était des scandales à répétition, mais de là à vouloir la supprimer. Alors, on a dit aussi, autre hypothèse, peut-être celle de Mohamed Al-Fayed, que c'était son fils qui était visé pour une affaire peut-être de trafic d'armes ou je ne sais, et que Diana aurait été une victime collatérale, donc ça aurait été Dodi qui aurait été visé, voilà. Mais bon, rien n'a jamais été établi à cet égard, malgré des enquêtes hyper sérieuses et très, très fouillées. Il y a eu un rapport de 6000 pages, enfin, par les enquêteurs franco-britanniques. Voilà. Donc les obsèques, on va parler des obsèques, et puis justement de l'attitude très contestée de la reine de la famille royale par l'opinion britannique, et ça c'était inusité. On était presque au bord d'une révolution, si on peut dire. Il y avait un mouvement populaire très fort qui a failli marquer une rupture et un ébranlement de la monarchie. Une incompréhension du phénomène qui se produisait, de cette popularité mais énorme, hein, notamment en Angleterre. Donc on va vous diffuser en première intermède justement la bande-annonce du film The Queen, la Reine, donc de Stefan Frears, en 2006, avec Hélène Mirren dans le rôle titre, qui justement relate, j'ai parlé de ce focus initial, lorsque Philippe et Elisabeth apprennent la mort de Diana à Balmoral, c'est la suite de leur attitude, l'attitude de la reine à l'égard, disons, de la gestion, si on peut dire vulgairement, de ces funérailles de Diana. On se retrouve dans une minute et demie. Oui.
Bonsoir, Majesté. Pardon de vous déranger, mais je viens de recevoir un appel de notre ambassade à Paris. La princesse de Galles.
Quoi ? Qu'a-t-elle encore fait ?
Le Premier ministre, Tony Blair, s'apprête à faire une déclaration.
Elle était la princesse du peuple. Et c'est ainsi qu'elle demeurera, à tout jamais.
La reine et la famille royale sont à Balmoral. Leur absence protocolaire a été vivement critiquée.
Diana n'appartient plus à la famille royale. Ce n'est plus une altesse. Cela relève du domaine privé.
Mais où vont-ils chercher leur conseiller ?
Le Premier ministre, pour vous.
Avez-vous l'intention de faire une quelconque déclaration ?
Non. Aucun membre de la famille royale ne s'exprimera en public.
À qui croit-il parler ?
Son instinct lui dicte de ne rien faire.
Imbécile.
Ce serait une erreur d'entrer dans leur jeu.
On lui a enseigné que c'est par la volonté de Dieu qu'elle est ce qu'elle est.
Un changement s'est produit. Un bouleversement des valeurs.
Vous êtes la souveraine, le chef de l'État. On n'a rien à vous dicter.
Donc, la question se pose des obsèques, des funérailles, au regard du protocole. Alors, on sait que les foules immenses, on l'a vu sur peut-être 1 million de personnes, enfin, en Angleterre et dans le monde, hein, qui sont émues par cette disparition. Et donc la reine se trouve à Balmoral avec ses petits-enfants, donc les deux fils de Charles et Diana, donc William et Harry, et refuse, disons, de, en quelque sorte, de se déplacer à Londres, parce que, on l'a dit, vous l'avez entendu dans l'extrait, la princesse Diana est divorcée, elle n'est plus d'altesse royale, elle n'est pas tout à fait redevenue une personne privée, elle reste toujours la mère du futur roi d'Angleterre, mais elle doit être, suivant la position du protocole, défendue par la reine, qui est très conservatrice par définition, eh bien, ne doit pas avoir, comment dire, un régime particulier pour ses funérailles. Et colère du peuple, colère sourde du peuple, l'opinion publique qui respecte de longue date la monarchie, et là, il y a un début de rupture. On considère que les Windsor sont trop froids, indifférents, voilà. Et c'est Tony Blair qui prend le pouls de l'opinion britannique et qui insiste fortement auprès de la reine pour qu'elle se dérange, voilà, pour qu'elle fasse montre d'empathie. Et au final, elle comprend. Elle comprend que eh bien, c'est peut-être la survie de la monarchie qui est en cause. Donc la famille royale revient à Londres. Elle prononce un discours. On a vu un discours très sobre pour rendre hommage à Diana. On fait mettre le pavillon. Ça paraît un détail, mais c'est très important. Le pavillon de royal, on le fait mettre en berne, alors que c'était refusé jusqu'à présent. Voilà. Et on a ces images plus tard dans le film qui sont assez prenantes, on peut dire. On a une foule immense au moment des obsèques, ou avant des obsèques, avec ces amoncellements de fleurs devant Buckingham Palace, et la reine fait une sortie. Et, alors le gouvernement, Tony Blair et son gouvernement regardent en direct sur les écrans, parce que l'événement est grave, on ne sait pas comment la foule va se retourner. La foule est très froide, très remontée, colère froide contre la reine. Et on voit la reine qui s'avance au milieu de cette foule silencieuse, enfin sur la place, devant les fleurs, devant les amoncellements de fleurs. Elle se recueille avec le prince Philippe. Personne ne bouge, silence, alors qu'habituellement il y a des acclamations. Hein. Et puis elle s'approche des gens, froide elle-même, elle met à la fois, c'est tout le prestige de la monarchie qu'elle incarne. Elle s'approche et puis il y a des petits saluts très discrets, très froids, hein, qui vont se répétant, quoi. On sent que c'est très... On ne sait pas ce qui va se passer. C'est un équilibre. Et puis, il y a une petite fille. Et là, on sent qu'il y a un déclic. Une petite fille d'une dizaine d'années qui offre un bouquet de fleurs à la reine. Et la reine lui demande « Veux-tu que je mette ces fleurs, ton bouquet, avec les autres ?» Alors, la petite fille lui répond « Non, elles sont pour vous. » Et donc, là, petit à petit, on se rend compte que les saluts se font plus... La foule se dégèle et le miracle s'opère. La popularité est reconquise. Voilà. Le peuple s'est retourné, si on peut dire, et soutient sa reine. Voilà. Et donc, c'est cet événement... Donc, qui dans le monde entier, c'est ce film qui relate très fortement, il y a une intensité dramatique à cet événement, parce que ça pourrait être une révolution, la foule pourrait se déchaîner, on ne sait pas quoi. Voilà. Il y a un certain courage à cette attitude. Donc, les obsèques se déroulent. Alors finalement, ça ne sera pas les obsèques d'une personne privée, ce sera des obsèques solennelles, non pas nationales, comme celle de Churchill, mais ce sera des obsèques solennelles, intermédiaires, si on peut dire, avec toutes les pompes, hein, quand même, comme celles qu'auront plus tard la reine-mère en 2002, et Madame Thatcher plus tard. Hein, voilà. Donc, le frère de Diana fait un discours, ou son demi-frère, je pense, hein, Spencer, elle s'appelle Diana Spencer, et son frère fait un discours qui était un réquisitoire à la cathédrale de Canterbury. Donc c'est des obsèques non pas officielles mais très solennelles, avec des invités prestigieux, enfin bien sûr le gouvernement, etc. Il fait un réquisitoire notamment contre les médias. Et puis il y a cette chanson d'Elton John qui, quand vous passera en fin d'émission, qui est un hommage, qui était initialement, là c'est la petite histoire, qui était initialement la chanson d'Elton John, Candle in the Wind, ou alors Goodbye My England's Rose. Alors, c'est une longue chanson qu'il avait écrite en 73 à l'occasion du 11e anniversaire de la mort de Marilyn Monroe. Et comme Elton John était un ami, enfin apparemment de Diana, il était trop tard, il ne voulait pas aller aux ses obsèques, très ému. Et on l'a convaincu, et au final il a chanté la chanson, mais trop tard pour écrire une chanson spéciale. Donc il a repris la chanson de 73 pour le 11e anniversaire de la mort de Marilyn Monroe, et il l'a adapté, c'est un remake, notamment l'orchestration a été remise à adapter. Et donc c'est cette chanson très émouvante qu'on entend au moment des obsèques. Hein, voilà. Donc on revient peut-être sur l'enquête, sur les circonstances, les questionnements. Alors, par exemple, on a des éléments, des témoignages. Alors, le garde du corps qui a survécu, notamment, que j'ai cité, n'a pas de, son témoignage n'est pas concluant. Apparemment, il dément, enfin, que eh bien, le chauffeur, Henri Paul, ait été ivre ou drogué. Il l'infirme. Ouais, mais bon. Par contre, il considère que, effectivement, c'est une évidence, il a agi avec légèreté au regard de l'état du véhicule, hein, qui était, c'était le cas de le dire, roulait à tombeau ouvert, hein, c'était un tombeau ambulant. Voilà. Et donc, par exemple, l'inspecteur Ken Worth, qui est dans les services rapprochés, hein, de la famille royale, écrit ses mémoires et il affirme formellement la thèse de l'assassinat, la théorie du complot. Hein. Parce qu'il y a des folles rumeurs. Par exemple, c'est la folie totale, bien sûr, encouragée par les médias. Je disais, on en parlait un mois après encore. Le monde était devenu fou. On a parlé de faisceaux lumineux qui avaient été déployés pour éblouir et provoquer l'accident. On avait parlé d'une Fiat Uno qui servait un peu de chèvre, si je puis dire, qui était là pour provoquer l'accident. En réalité, on a retrouvé le propriétaire, mais qui était effaré, il avait fait repeindre le véhicule. Mais il était innocent, hein. Il s'était trouvé là par mégarde. Bien sûr, il roulait pas vite. Donc, voilà. Par ailleurs, les plus fins limiers de Scotland Yard et les fins limiers de la police française... je pense des services spéciaux notamment. Alors on peut s'attaquer au dossier, l'enquête sera très fouillée. Vraiment, on a dépensé des millions de livres et à l'époque c'était des francs encore, hein, je dis pas de bêtises. Donc pour cette enquête, et sans résultat, hein, sans résultat tangible quant à la thèse du complot. Alors Lord Steven, mais bien sûr, il faut dire que si c'est les services secrets britanniques, Mohamed Al-Fayed considère que c'est ces services secrets eux-mêmes qui auraient provoqué. Donc, il considère, lui, toujours, que eh bien, les résultats sont falsifiés. Alors, par exemple, on a quand même des gens honnêtes, on peut supposer. Par exemple, Lord Stevens, Kirkell, Winton, hein, voilà, qui est lui aussi un as de Scotland Yard, qui dément, qui considère lui aussi bon, que c'est pas un attentat. Alors il y a des vidéos, sont épluchées, des enregistrements téléphoniques, on fait des simulations par ordinateur, on examine la Mercedes, 1500 témoins sont interrogés, dont les journalistes, traqueurs, qui empêchaient même les services de secours d'approcher, hein. qui malmenait notamment, je me souviens peut-être d'un témoignage d'un médecin qui s'était trouvé sur place, il était secoué, presque agressé par ces infâmes paparazzi qui voulaient prendre leurs photos. Et l'enquête va durer près de 10 ans. Je répète, je n'ai plus le chiffre, quelques millions de... Une enquête très, très intense, très, voilà, au plus haut niveau, jusqu'à octobre 2017, pendant près de 10 ans. Et rien ne... n'apparaîtra quant à cette thèse complotiste. La haute cour de Londres également fait procéder à une enquête judiciaire de haut vol, idem la conclusion, mais bon, c'est que le M16 n'est pas en cause, hein. Et je l'ai dit, Mohamed Al-Fayed persiste et il engage sa propre équipe de détectives privés, mais à l'évidence sans résultat, hein. Voilà. Donc on peut évoquer aussi la situation, disons, matrimoniale, la situation du couple. Alors, à savoir que Charles avait renoué avec... on sait qu'il y a eu cette idylle qui avait commencé avant le mariage, apparemment dès 79, entre Charles et Camilla Parker Bowles, qui était devenue Camilla Chandels, qui était devenue Parker Bowles, qui était mariée. Et puis, semble-t-il, il avait renoué, après avoir rompu avec Camilla, lors de son mariage, en 1980, avec Diana. Et puis, on verra ça un petit peu plus, le détail de cette guerre qui va apparaître entre les deux époux, par médias interposés. Il avait renoué, notamment après, je veux dire vers 87, et la famille royale était au courant, bien sûr, de cette liaison, mais c'était une tradition un peu dans les... C'était pas un fait nouveau, dans la famille royale, ces adultères. Bon, ils couvraient ça, puis bon, du moment que c'était discret. Mais il y a eu cette vengeance de Diana. Il semble qu'elle ait découvert. Je me réfère à un texte de Jean Descartes, qui est historien. Ouais. Et qui narre la chose, alors ça paraît très précis. Il semblerait qu'il avait offert, je parle de Charles, un bracelet comme cadeau d'adieu à Camilla, et que Diana aurait découvert la chose et l'ignorait, semble-t-il, cette liaison. Elle était toute jeune, 19 ans, et donc à partir de là, c'est la rancune et la vengeance. Et puis, il faut dire aussi que sa personnalité elle-même, au-delà de cette. Le fait probablement que Charles, c'était un mariage arrangé pour lui et elle, apparemment, c'était une véritable histoire d'amour. Voilà. Donc, il semblerait que aussi, un démembrement de cette rancœur, elle n'était pas vraiment préparée, elle n'était pas faite pour se plier à la discipline et au protocole. Voilà. Je l'ai dit, c'était un électron libre. Elle était exubérante. Elle ne pouvait pas se plier à ce cadre-là. Et même jusqu'à la veille du mariage, Charles hésitait, semble-t-il. Il s'était vu assez peu, une dizaine de fois peut-être, vraiment un mariage arrangé. Il hésitait, il s'interrogeait sur sa capacité, de sa fiancée, à tenir ce rôle écrasant. Quoi. Voilà. Et donc, par exemple, ça sera la vengeance, une guerre véritable. Par exemple, elle prend l'habitude de voler la vedette à Charles. Lorsqu'ils font des voyages officiels, c'est très facile. Toutes les médias et le public sont tournés vers la jeune princesse. Et Charles, il reste dans l'ombre. Voilà, il y a les photos, tout ça. Elle capte la lumière, elle attire la couverture à elle. Ouais. Par exemple, quand les deux époux saluent la foule, qui est en haie de part et d'autre, l'un à gauche, l'autre à droite, la foule se précipite à gauche. Ils ignorent presque Charles. Et parfois, ils donnent des messages à Charles pour Diana. Voilà. La foule est folle, on le sait. Et mais elle pourrait se rendre discrète. Elle n'en fait rien. Voilà. Par exemple, et puis ça va aller crescendo. Et alors, les scandales vont se multiplier et les provocations. Au printemps 1992, c'est un livre d'Andrew Morton, La véritable histoire de Diana, dont les meilleures pages sont publiées dans les tabloïds, notamment le Sunday Times. Alors elle se présente, ça sera un best-seller, le bouquin, elle se présente comme une victime, presque sainte, et victime de la famille royale, victime de son époux. Voilà. Elle devient une véritable star mondiale à partir de ce moment, et elle s'affiche totalement, elle exploite totalement cette image. Voilà. Et on sait que cette apparente victime des paparazzi, par exemple, ils sont prévenus, tout est arrangé à l'avance, ils savent, ils sont prévenus par son secrétariat du lieu où elle va aller, et donc c'est arrangé à l'avance. Elle feint la surprise et l'exaspération, mais encore une fois, tout est prévu. On ne sait plus qui est le chat et la souris. Voilà. C'est un filon, bien sûr, pour les tabloïds. C'est un événement quasi inusité. Il y a eu des précédents, mais pas à ce point. Et puis, elle est la future reine, elle est la mère du futur roi, donc c'est énorme. Alors, il y a un feuilleton TV aussi qui relate ces épisodes, hein, voilà. Et je l'ai dit, c'est cette exploitation d'une image, voilà. Et par ailleurs, alors là, c'est peut-être sincère, c'est cette image de Princesse des Cœurs, c'est le titre qu'elle veut se donner, mais ma foi, somme toute, on ne va pas juger sur les intentions, hein, puisque les faits sont là. Quand c'est de bonnes actions, si on peut dire. Alors, elle rencontre Mère Teresa. Il y a toutes ces photos superbes, ces images. Elle tient la main de Mère Teresa, voilà, auprès de son mouroir à Calcutta. Et puis, bien sûr, il y a des dons, des soutiens aux associations. Je vais parler de cette image de soutien. Ça, pour mettre fin à la discrimination à l'égard des malades du sida. Voilà. Ça, c'est une image qui fait un électrochoc dans le monde entier. Diverses associations aussi qu'elle va soutenir. Cette lutte aussi très légitime dans les mines, contre les mines antipersonnelles, hein, qui sont enfouies dans le sol et qui font des blessés terribles, des morts. Elle fait ce combat partout en Afrique. Elle envisage d'aller en Palestine. Là, il y a un aspect politique, bien sûr, hein, un aspect à la fois humanitaire et politique. Et elle voudrait devenir une ambassadrice humanitaire. Et alors, on peut se demander si elle avait vécu, effectivement, vu sa force de popularité, son charisme. Hein, mais, hélas, l'expérience a duré quelques années, 3 ans à peu près, quoi. Puisque c'est cette agitation et cette vie qui se termine brutalement. Alors, les scandales, parallèlement, bien sûr, les scandales, il y a à la fois cette lumière, ces actions humanitaires, et puis les scandales en parallèle. Cette vie de couple, mais qui n'en est plus un, hein, eh bien, est émaillée alors de révélations. Le 20 août 1992, le Sun, par exemple, publie un enregistrement téléphonique privé téléphonique de Diana du 31 décembre 1989, donc le jour du réveillon, hein, avec un certain John Gilbey, qui est un vendeur de voitures de luxe et l'héritier d'une marque de jeans. Alors là, c'est une conversation très intime, hein, très intime. Alors, qui a révélé ça? Qui a capté? Là, on parle des services secrets, justement. On parlera du Squiddy Gate, parce qu'il l'appelle Squiddy, ça veut dire ma douce. Alors, bien sûr, c'est une révélation amoureuse, d'une liaison amoureuse. Et là, elle formule dans cet enregistrement, donc en live, si on peut dire, ses récriminations contre la famille royale en termes grossiers. En termes grossiers. Et encore, il y a eu des parties qui ont été supprimées. Alors pourquoi cette intervention éventuelle des services secrets, cette révélation? Il semblerait que le gouvernement, la famille royale, comme elle est très populaire, hein, c'est une madone presque, on cherche à, non pas à en faire trop, mais on cherche à éroder cette popularité, voilà, pour eh bien, rogner un petit peu le côté dangereux, quoi, du personnage, pour atténuer, hein, là, pour mettre de l'eau dans le vin, pour refroidir l'opinion, d'où ces révélations. Hein, voilà. Donc, il y a cette vengeance aussi, mais c'est peut-être aussi sa personnalité, hein, en soi. Elle est peut-être, elle a beaucoup d'amants, les amants sont nombreux, dit-on, mais c'est vrai, ils se succèdent, voilà. On en citera quelques-uns, mais bon. Il y a alors là un ultime voyage officiel à la demande de la reine, du couple, on le sait, mais c'est une association maintenant, ils sont juste là en vitrine en Corée du Sud du 4 au 8 novembre 1992. Alors là, c'est un succès, ils font bien le job, succès diplomatique et commercial, mais les photos, les cinéastes, dans les bandes d'actualité, captent, disons, ces images d'un couple, chaque geste, chaque mimique, et on sent bien que c'est la froideur totale, qu'il n'y a plus d'empathie. Hein, voilà. C'est purement mécanique. Hein, voilà. Ils jouent le rôle, ils font le boulot. Et puis il y aura, si on peut dire, le coup de grâce, si on peut dire, la chute, alors là, hein, en opposition au Squiddy Gate, il y aura le Camilla Gate. Alors là, c'est la sortie aussi d'un enregistrement capté en 1989. C'est une conversation de Charles avec Camilla, alors très intime, hein, très presque pornographique, avec des détails scabreux. Alors il y a ces deux éléments, donc le Skiddy Gate et le Camilla Gate. Hein, le monde est pris à témoin de ce conflit qu'on a appelé la guerre, on l'a dit, des Galles. Voilà. Et puis en 1994, ils vont divorcer en 96. Hein, je dis, mais dès 84, après la naissance du deuxième fils Harry, ça a été cette guerre. Eh bien, là, autre scandale provoqué par Diana dans le News of the World. Donc, c'est une émission, hein, de télé, sauf erreur. Donc, on relate, eh bien, son histoire d'amour avec un antiquaire, hein, parmi d'autres, un amant, Olivier O'Hari. Mais là, le point un peu plus aggravant, c'est que lorsque la rupture survient, à l'initiative de l'amant, eh bien, il semblerait que Diana ait tendance à harceler la femme, l'épouse de O'Hari. Voilà. Donc, c'est révélation. Voilà. Et puis, alors, Charles, il y a toujours ces coups portés de l'un à l'autre et réciproquement. Là, il fait publier un livre, The Prince. Alors, c'est encore toujours du fait de Diana, Princess of Love, in Love. Alors là, c'est Dana Pasternak, c'est un écrivain, je dis écrivain, quoi, voilà, et qui évoque là une longue liaison qu'elle a eue avec James Hewitt, qui est un capitaine, un officier de l'armée. Bon. Et Diana le reconnaîtra, cette longue liaison. Elle disait, j'ai adoré cet homme, voilà, parmi d'autres, hein, beaucoup d'autres, mais bon. Donc on va peut-être passer le deuxième intermède. Alors là, justement, on en est aux obsèques, mais cette fois en situation réelle. C'est relaté, c'est des bandes d'actualité, mais assez récentes, c'est dans une vidéo INA. Donc, ces obsèques ont eu lieu le 6 septembre 1997, l'enterrement de Lady Diana. Alors là, il y a plusieurs bandes. Là, ça sera Benoît Duquesne, hein, sur France 2, aux 20h, hein, qui relate justement cette cérémonie. On va vous en passer un extrait, hein, de 3 minutes, hein, qui relate donc ces pompes, hein, des obsèques, et cette émotion qui étreint le peuple britannique. Nous nous retrouvons dans 3 minutes.
La famille royale à l'unisson de son peuple, elle qui avait tant tardé à prendre en compte l'immense émotion populaire qu'a suscité la mort de la princesse de Galles. Bruno Le Dreyf.
À cet instant, Londres retint son souffle. Les gardes gallois qui avaient accompagné la dépouille de leur princesse ont pris son cercueil sur leurs épaules et ont pénétré de leurs pas lents dans l'abbaye de Westminster où furent célébrées ses obsèques. Une cérémonie suivie par 1,5 million de spectateurs et, dit-on, plus de 2 milliards de téléspectateurs. Une cérémonie où se mêlait le protocole le plus rigide et la ferveur la plus populaire qui soit. Cercueil recouvert d'un drapeau aux armes royales sur un affût de canon pour le protocole. Cris et pleurs de la foule pour une présence populaire jamais vue. Et comme son peuple, la reine, accompagnée d'une partie de la famille royale, est descendue dans la rue pour rendre hommage à la princesse de Galles. Une princesse que la reine avait dépouillée de son titre d'altesse royale et poussée au divorce l'an dernier. Mais aujourd'hui, la reine s'est inclinée devant elle. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, la reine a fait mettre le drapeau britannique en berne sur son château de Buckingham. Et le peuple anglais a applaudi. Et le peuple anglais a versé une larme de plus lorsque William et Harry, les enfants de Diana, accompagnés de leur père, se sont joints au cortège. À leur côté, Charles Spencer, le frère de Diana, et le prince Philippe, époux de la reine. une démarche non prévue au protocole, mais qui pourrait bien marquer le début d'une réconciliation entre les Britanniques et leur monarchie. Devant ces trois hommes et ces deux enfants, le cercueil de la princesse de Galles, couvert de fleurs blanches. Et ce bouquet...
Donc, Charles réagit, là c'était... Il cherche justement à, légitimer, rétablir la situation, parce que tous ces scandales ébranlent le couple, mais ébranlent aussi le prestige de la monarchie. Donc le 29 juin 1994, un film est diffusé sur la BBC, je pense que c'était un documentaire, à une heure de grande écoute, à 20h15. Et alors Charles the Private Man, Charles l'homme privé, and the public role, l'homme privé, l'homme public. Voilà. Et donc là, il se fait un autoportrait en quelque sorte, nuancé, honnête. Il faut bien le dire, il reconnaît l'échec de son mariage, mais il considère qu'il est toujours le digne héritier de la couronne, parce qu'on le sait aussi anecdotiquement, c'est pas anecdotique, que le roi d'Angleterre depuis Henri VIII est le chef de l'église anglicane. Donc quid d'un roi divorcé, chef de l'église, mais il estime que c'est toujours possible. Et donc c'est avéré au regard peut-être de la constitution non écrite anglaise, de l'usage et puis de la modernité. Il se fera le défenseur, dit-il, de la religion anglicane, mais aussi de toutes les religions. Voilà. Et donc suit un livre, The Prince of Gales, de Jonathan Dembley, qui est également qui est l'auteur d'ailleurs du documentaire, et qui complète un petit peu le film, voilà, pour établir une image équilibrée, on va dire, d'un Charles qui est diabolisé, par, il faut bien le dire, par Diana. Et l'Angleterre est divisée entre les pros et les contres. Voilà. Et puis, alors là, Diana, c'est un autre coup énorme. Interview fracassante à la BBC, dans un magazine prestigieux et Panorama, de grande écoute, de grand public, du 20 novembre 1995. Alors là, elle se confie et elle déballe. Donc sa rancœur, notamment contre Camilla, et puis surtout, elle avoue sa liaison avec le capitaine Hewitt. Homme que j'ai adoré, dit-elle, mais elle en a adoré beaucoup, mais ça, peu importe, c'est plutôt son actif, je dirais. Mais pourquoi faire tant d'agitation, hein? Ça aurait pu être beaucoup plus discret. Hein? Et quand on accède, on peut supposer, à un tel prestige, ça vaut quelques sacrifices, hein, aussi. Et puis de faire les choses en coulisses, hein? Voilà. Pas besoin de mettre ça sur la place publique. Et alors, surtout, ce qui apparaît gravissime, c'est qu'elle considère que Charles est indigne de régner, incapable, et qu'elle souhaite que ce soit son fils aîné William qui succède à sa grand-mère Elisabeth. Voilà. Alors là, ça fait vraiment un grand scandale. Actrice, là elle est une parfaite actrice. Elle a un air un peu larmoyant. Je pense qu'on l'avait vu sur les médias. Moi, il me semble plutôt qu'elle avait une tête à claque, mais enfin, elle se présente un peu comme une veuve en noir, et puis... Mais, enfin bon, il y a des millions de téléspectateurs qui voient ça, et c'est un peu un gâchis quand même, hein, alors qu'elle pouvait utiliser cette force médiatique pour ses œuvres humanitaires. Hein, voilà. Et donc, la reine intervient, souveraine et chef de famille, et elle envoie deux lettres à Diana et à Charles. Elle exige le divorce. Voilà. Il faut mettre fin à ces péripéties scandaleuses. Et donc, ce seront d'âpres négociations. Elle va se défendre comme une chiffonnière, Diana, hein, avec un bataillon d'avocats. Elle obtiendra une indemnité compensatoire de 17 millions de livres. C'est l'indemnité la plus coûteuse on va dire, du XXe siècle, c'est un record. Et puis elle conserve des, comment dire, ses appartements au château de Lexington, etc. Voilà. La garde alternée des enfants, qui sont petits à l'époque, hein, William et Harry, et le divorce est prononcé le 28 août 1996. Et alors, on vient à l'événement dramatique, à la tragédie. L'amant du moment, elle a un amant, un autre amant, Aznat Khan, K-H-A-N, qui est un chirurgien pakistanais, qu'elle a rencontré, semble-t-il, à Londres. Et que... Mais la famille refuse le mariage. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent que leur fils, pourtant chirurgien, indépendant, quoi, donc, épouse une non-musulmane. Hein. Et donc. Et puis le chirurgien qu'elle va visiter en Palestine, Aznat Khan, eh bien, est effaré par cette médiatisation, donc il rompra, hein, voilà. Et par ailleurs, Charles lui-même s'affiche désormais librement avec Camilla, voilà. Il n'y a plus rien de, bien sûr, de caché désormais, et on sait qu'il épousera ensuite Camilla. Il y aura un remariage en juillet 1997. Mohamed Al-Fayed, alors le richissime homme d'affaires égyptien qui possède le magasin Harrods, je l'ai dit, le Ritz à Paris, et invite Diana avec ses enfants donc à passer quelques jours de vacances chez lui à Saint-Tropez. Alors il y a les photos, là aussi c'est pas des photos spontanées volées, hein. C'est fait pour, c'est négocié à l'avance, hein. Sur le yacht, les enfants qui font du ski nautique, et puis on a cette image de demeure de Diana sur la passerelle du, sur le plongeoir, hein, vraiment du yacht, hein, en maillot de bain, quoi, voilà, avec sous un ciel bleu. Enfin, c'est une superbe photo. Voilà. Et donc il y a cette liaison, évidemment, avec le fils de Mohamed Al-Fayed, Dodi Al-Fayed, qui est un playboy. Hein, voilà. Croisière en Sardaigne, enfin, et alors je répète cette photo qui a fait le tour du monde sur le plongeoir du yacht, et puis bien sûr le retour du couple à Paris, on le sait, au Ritz, elle doit rentrer en Angleterre pour voir ses enfants, et puis un dernier coup de fil la veille de la mort, semble-t-il, avec son fils, qui se passe pas trop bien, avec son, mais qui est un enfant de 12-13 ans ou 14 ans, avec son fils Harry. Avec son fils William, son fils aîné, hein, qui est né en 82, donc voilà. Et William né en 84. Et c'est, on l'a vu, l'attentat, enfin pas l'attentat, mais l'accident tragique, voilà. Donc elle était née en 61, Diana, elle est morte en 1936, voilà. Donc j'ai envie de faire quelques petits parallèles, quelques analogies. Alors on peut bien sûr noter en conclusion cette, l'aspect lumière, elle crée une fondation, enfin qui semble un petit peu brinque-ballante, hein, voilà. Cette fondation qui recueille beaucoup de fonds pour ses causes, hein, les lépreux, bien sûr le sida, les luttes contre les mines antipersonnelles, les sourds, enfin cette rencontre avec Mère Teresa qui est très forte, même si c'est aussi pour la photo, peu importe, c'est aussi une réalité. Alors notamment Mère Teresa qui meurt le 5 septembre 1997, hein, au moment des obsèques de Diana, voilà. On met en parallèle les deux personnages, hein, voilà. Bien que Mère Teresa, c'est toute une vie qu'elle a consacrée aux pauvres, et Diana c'était 3 ans à peu près, mais bon, que n'aurait-elle pas fait si elle avait vécu, hein, voilà. On fait quelques comparaisons, si j'ai le temps, mais avec... Je n'aurai pas le temps. Il y avait eu la reine Astrid qui était morte en 35, la reine des Belges, dans un accident de la route aussi, alors que son époux Léopold III conduisait la voiture. Très populaire aussi. Alors, la comparaison que... Wallis Simpson, qui est devenue l'épouse d'Edouard VIII, hein, et le divorce forcé en 1936-37, hein, voilà. Et puis peut-être la comparaison aussi avec il y a eu aussi Sarah Ferguson, on en parle peu, ça a été effacé, occulté par le divorce, enfin la vie tumultueuse du couple et la dissolution, Charles Diana, il y avait Sarah Ferguson qui avait épousé le prince Andrew, le frère cadet de Charles. Il y avait les quatre fils d'Elisabeth et de Philippe. Il y avait Anne, la princesse Anne, il y avait le prince Charles, le prince Édouard et le prince Andrew. Et donc il y avait Sarah Ferguson aussi, cette rousse, vous savez, qui était donc duchesse d'York, duc d'York. Ils ont divorcé aussi. Ils ont divorcé parallèlement, mais ça a été un peu, encore une fois, occulté. Voilà. Et puis Margaret, la sœur cadette de la reine, avait eu une vie très tumultueuse, mais elle n'était pas future reine. Alors. Elle a épousé Anthony Armstrong, mais il y avait eu une idylle avec Peter Townsend, un pilote de la Royal Air Force, un as pendant la guerre. Et puis alors, elle a eu aussi beaucoup d'amants dans cette île moustique où elle avait sa résidence. C'était la drogue, l'alcool, les amants en nombre aussi, Margaret, voilà. Et on notera que la reine mère, la très digne, qui a parcouru le siècle, née en 1900, morte en 30 mars 2002, sa fille cadette, justement Margaret, est morte le 9 février 2002, 3 mois avant. Hein, voilà. Donc on va terminer avec la chanson d'Elton Jones, hein, que j'ai citée, Candle in the Wind. Voilà. À bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.
You candle burned out long before. Religion never did. I would have liked to know you, oh, but I was just a kid. Your candle burned out long before. Your legend never did.